Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. René Lavergne avec vous pour donc cette émission consacrée aujourd'hui à la Maison pour la Science en Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et donc le directeur de cette nouvelle maison est devant moi. Il s'appelle Jean-Philippe Cassard. Vous le connaissez puisqu'il était vice-président culture et patrimoine scientifique à l'Université Lille 1. Et donc il est, pendant cette période, on va dire, faste, fructueuse, il a pu déjà préparer, élaborer, peut-être, on va en parler, cette maison. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans cette émission Campus Lille Info. Bonjour Jean-Philippe Cassard.
Bonjour.
Donc de bonnes nouvelles aujourd'hui?
Ah oui, oui, tout à fait.
On peut peut-être donner un peu les objectifs, les fondements de cette maison pour la science.
Alors, la Maison pour la Science, donc, elle tourne, elle existe hein, depuis janvier 2014. Et je prends la suite hein, de Francis Mélier, qui en a assuré la direction pendant 2 ans, pratiquement. L'objet de la Maison pour la Science, c'est de proposer, en fin de compte, une expérience à des professeurs d'école et collège hein, pour envisager autrement leur pédagogie de la science. L'objectif, c'est de les mettre en situation d'élèves, un peu, pour découvrir l'intérêt d'une science vécue, vivante et basée sur l'expérience et sur l'expérimentation.
Alors, on a donc cette idée-là. Est-ce qu'il y a des missions bien précises ? Par qui est-il, on va dire, piloté d'un point de vue administratif ?
Alors, en région, c'est la Maison pour la Science est portée par l'Université Lille Sciences et Technologies. Et au niveau national, l'ensemble du réseau des 9 maisons est coordonné par la Fondation La Main à la Pâte, hein, avec le soutien hein, des fonds investissement d'avenir qui ont permis la création de ces 9 maisons.
Voilà, c'est vrai qu'on en avait parlé avec Francis Mélier, hein, maintenant ça y est, c'est clair. Hein. Et donc, l'idée c'était de mettre à disposition hein, des professeurs des outils, des méthodologies, bref, un centre de ressources. Quoi.
Oui, alors c'est un centre de ressources vivant. Hein, puisque c'est surtout des actions pendant lesquelles, sur 2 journées, à la fois donc les enseignants, comme je le disais, vont pouvoir être mis en situation, mais vont pouvoir aussi échanger avec des chercheurs, hein, des techniciens ou des ingénieurs de laboratoire. Donc découvrir aussi une science vivante en connexion avec les thèmes qu'ils auront traités, qu'ils auront à traiter dans leur classe ensuite.
Alors c'est vrai qu'actuellement, on a des indicateurs qui ne sont pas géniaux, on va dire, dans les mathématiques, voire les sciences, qu'il est urgent de faire quelque chose qui peut-être soit inspiré d'autres pays où ça fonctionne mieux, ou alors de trouver des choses originales qui font que de toute façon ça évolue favorablement.
Alors, oui, j'ai lu comme vous hein, l'étude là, sur le niveau en mathématiques et en sciences hein, des élèves de CM1. C'est à la fois un peu surprenant parce que je pense que les enseignants se motivent hein, quand même pour cet enseignant des sciences, mais c'est pas non plus très étonnant parce que il faut voir que dans les professeurs d'école, à peu près 80% des professeurs d'école n'ont pas de formation scientifique de base. Ils ont juste la formation qu'ils ont reçue en passant à l'ESP, quand ils sont passés par l'ESP pour les plus anciens. Donc l'enjeu de l'enseignement des sciences, hein, je rappelle qu'il y a quand même un module de 2 heures hebdomadaires normalement réservé à l'enseignement des sciences, cet enjeu-là, il passe un petit peu à côté. Quelquefois, c'est un point difficile de la pédagogie en école.
Alors, c'est vrai aussi, moi j'ai bien connu un temps où il y avait, comme instituteur à l'époque, hein, des gens dont une partie avait fait, on va dire, un baccalauréat scientifique. Or, je pense que si on prend les statistiques maintenant de la population qui devient enseignant, est-ce que justement la formation de base n'est pas plutôt littéraire, donc pas forcément d'un point de vue... Parce que moi, j'ai vu des gens qui faisaient des études littéraires au niveau bac, et j'ai trouvé qu'on leur donnait plutôt des recettes que des raisonnements à mettre en œuvre.
Alors, c'est ce que je disais, c'est qu'effectivement, hein, les statistiques, c'est à peu près ça, c'est 80% hein, des gens qui n'ont pas fait une formation scientifique de base qui sont présents en professeur des écoles. Donc c'est, c'est une vraie difficulté. Alors, le rôle de la maison, quand on s'adresse à ces professeurs-là, c'est de les rassurer d'abord sur leur capacité à aborder la science, leur montrer d'abord que la science, ça peut partir du quotidien, des choses simples, des objets, de la manipulation, donc des choses qui sont en mesure de maîtriser si on les accompagne. Et donc, à partir de, je dirais, ce réassurement, on les met... Alors, pour se réassurer, ben, on les met aussi en situation, leur montrer que eux aussi, ils sont capables de faire de la science sans avoir forcément tous les prérequis, hein, d'avoir une démarche rigoureuse, de se poser des questions, de cheminer, d'argumenter. Et une fois qu'ils ont fait ça, effectivement, on leur propose aussi un accompagnement pour la mise en œuvre en classe.
Alors on peut quand même aussi se demander, au niveau des classes, on va dire, seconde, première, terminale, si on n'a pas lieu de renforcer cet enseignement de la science, de la logique, des mathématiques, au-delà des théorèmes à apprendre par cœur, etc., des applications de formules, sur de la théorie et du raisonnement, voilà, à prendre en compte davantage, puisque là, on est sur des effets d'une politique peut-être de formation dans ces années, on va dire, précédentes, qui peut-être amène maintenant à cette situation.
Alors, effectivement, alors, dans ce que vous venez de dire, je vais retenir deux choses. Enfin, d'abord, la Maison pour les sciences ne traite pas le lycée, pour une raison très simple, c'est que pour la Fondation La Main à la Pâte et pour l'Académie des sciences qui a lancé l'opération, la détermination vers les sciences et, en fin de compte, quelquefois le rejet de la science se joue à l'école et au collège. C'est-à-dire qu'au lycée, la plupart du temps, les choses sont pliées, hein, en termes d'orientation. C'est-à-dire que les gens ont choisi déjà une filière et qu'à ce moment-là, il est un peu trop tard pour motiver ou garder un intérêt pour les sciences. La deuxième chose que dans ce que vous avez dit, c'est justement la question de la connaissance. Comment on introduit la connaissance ? Alors, je vais prendre, par exemple, moi, je suis allé me former il n'y a pas très longtemps, là, donc dans un séminaire de la Fondation au niveau national, et on est parti du principe d'Archimède. Alors, tout le monde, je pense, est capable de dire à peu près le principe d'Archimède, hein, tout corps reçoit une poussée égale au poids du liquide déplacé. Un plongé dans la salinité, un liquide reçoit une poussée égale au poids du liquide déplacé. Mais dans la pratique, on se rend compte que personne n'a fait l'expérience. Et le but, là, c'était de nous faire faire l'expérience et de nous faire nous poser les questions. Dans quelles conditions ce principe est vrai? Quelles sont ses limites? Et qu'est-ce qui nous permet de prédire sur un certain nombre d'autres situations?
Bon, là, peut-être le problème est plus au niveau des gens qui n'ont plus de baignoire chez eux, mais que des douches. Et là, effectivement, à part la piscine, il y a moins de façons d'exercer.
On est bien d'accord. Et même dans la piscine, la question, c'est effectivement comment il se joue, à quel moment il se joue, quand on est complètement immergé, pas complètement immergé, comment on peut faire jouer le volume, etc.
Voilà, et donc, voir ça, c'est même très intéressant. La salinité de l'eau si on va à la mer. Hein.
Exactement aussi, voilà.
Alors, donc, on parlait de démarche scientifique. Alors, c'est vrai qu'entre les savoirs, les connaissances et aussi les démarches, il y a quand même, justement, au niveau de cette démarche, je pense que c'est fondamental, on va dire. Si on n'a pas une démarche, on a bien beau apprendre tout ce qu'on veut, le reste ne suivra pas forcément.
Oui, alors, justement, la question, c'est la manière dont on aborde la question de la science, c'est de savoir si on l'aborde du côté de la connaissance en premier ou si on l'aborde sur la question du questionnement et de l'argumentation. Et donc, la proposition, c'est effectivement d'essayer. Alors, on n'est pas. Les enseignants avec lesquels on travaille ne sont pas des chercheurs, mais on les remet devant un questionnement. Une situation qui les interroge, qui n'a pas de réponse évidente, et on leur demande de travailler un petit peu dans l'esprit de la démarche scientifique, on appelle ça une démarche d'investigation, c'est-à-dire d'émettre des hypothèses sur l'explication qu'ils peuvent donner, de voir comment vérifier ces hypothèses, et à partir de là, d'émettre une conclusion finale qui n'est d'ailleurs en général pas toujours la bonne réponse, mais le fait de se tromper, entre guillemets, là aussi, le facteur positif et pédagogique de l'erreur doit être réintroduit dans l'enseignement.
Alors, c'est vrai dans l'enseignement, ça peut être vrai aussi dans la vie, c'est-à-dire à partir d'un problème, quelle solution on peut trouver à partir d'un raisonnement, d'une démarche, voilà. Donc, ça, ce qu'on apprend finalement à l'école, ça sert aussi au quotidien à émettre des hypothèses, trouver des solutions, et ça, c'est vraiment utile, quoi.
Ah bah c'est certainement, c'est même déterminant pour la formation du citoyen. Derrière ce que la démarche scientifique, il y a la question de l'esprit critique, c'est-à-dire considérer qu'une situation, elle n'est pas acquise d'avance, que son résultat, il n'est pas, on peut le questionner. Hein, et donc, mais que si on le questionne, on a aussi à être rigoureux dans son questionnement et dans la vérification des hypothèses. Donc, ça veut dire aussi que toute affirmation quelque part, devrait appeler tout le temps à des questions qui sont « mais pourquoi et comment ?»
Alors, j'irais même plus loin. Je dirais peut-être que les dérives nationalistes et les dérives, religieuses, peut-être qu'elles sont favorisées par ce manque qui est constaté aujourd'hui dans cette analyse, ces résultats de ce manque de compétences, de connaissances mathématiques ou scientifiques, ce raisonnement qui manque en fait.
Alors, vous m'emmenez un petit peu loin du domaine de la maison pour la science,
hein, c'est vrai que
moi je suis convaincu qu'il y a un vrai enjeu culturel, c'est-à-dire que si les gens ne sont plus capables de regarder la réalité avec un esprit critique, c'est tous les pans de la société qui vont effectivement recevoir comme des affirmations qu'ils n'auront pas besoin de vérifier, qu'ils vont adopter sans se poser la question de l'origine, de la justification ou de la démarche intellectuelle qui a pu amener à ces affirmations. Et on est dans le même processus de pensée qu'une démarche scientifique. Je pense que la philosophie, c'est pas mon domaine, mais on procède du même travail de questionnement, d'interrogation, de construction et de rigueur dans la construction de la pensée.
Absolument. Alors, c'est vrai que pour moi, déjà, une partie du mal est fait, qu'on en souffre déjà. Est-ce qu'on peut améliorer les choses vite? Il y a urgence.
Alors, le vite, bien sûr, nous, on aimerait bien aussi. L'important, c'est quand même d'abord de se mettre en route et puis de constituer quand même un certain nombre, en tout cas pour la Maison pour la Science, d'avoir un certain nombre de relais. La Maison pour la Science est une petite équipe, c'est 6 personnes. Actuellement, pour l'équivalent de 3 tremplins. Donc, on n'a pas des moyens importants. Heureusement, on a un certain nombre de collègues chercheurs, enseignants-chercheurs qui se mobilisent pour nous aider à construire les actions. On a des collègues inspecteurs d'académie, collègues dans des collèges ou dans des écoles qui aussi se mobilisent pour nous aider. On essaye de faire le maximum de travail pour mobiliser cette nouvelle manière de voir les sciences et de la mettre en œuvre.
Voilà. Donc, à ceux qui se demanderaient encore maintenant, faut-il croire en la science?
Ah, alors ça, c'est une bonne question. C'est que je pense que pour croire en la science, si on reste extérieur à ce que peut être la démarche scientifique, on n'a pas plus de raison de croire à la science que de ne pas y croire. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une démarche rigoureuse et de vérification de l'utilité ou de l'intérêt des sciences. Et un des enjeux, justement, de se mettre en situation sur des situations simples. Je parlais tout à l'heure du principe d'Archimède, mais sur d'autres questions, c'est de se dire bah « Tiens, je me pose une question et la science est capable de répondre à cette question-là », est une manière de vérifier l'efficacité de la connaissance scientifique en termes de prévision. Et ça, souvent, on remet la science est remise en cause sur cette capacité, sur sa capacité de prévision.
Alors, pour aller plus loin, Jean-Philippe Cassard, la question peut aussi se poser dans ces termes. Où nous mène la science et notamment la technologie quand on voit les dégâts aussi qu'elle cause.
Alors c'est une des causes de la remise en cause des sciences, c'est sa traduction en technologie. Mais il faut faire attention qu'il ne faut pas faire une confusion sur l'identité de science et de technologie. La science reste le domaine de l'acquisition des connaissances. La technologie, c'est celle de la mise en œuvre de ces connaissances pour réaliser des objets pratiques que vous allez utiliser dans la vie courante, du smartphone à la voiture qui se gare tout seul. Alors pour l'anecdote, la voiture qui se gare tout seul, pour vous, c'est peut-être de la technologie. Pour moi, qui ai commencé ma recherche dans les années 90 dans des laboratoires d'automatique, c'était un sujet de recherche et il y a plus d'une dizaine de thèses qui se sont passées en France sur ce domaine-là.
Oui, pour d'autres, c'est peut-être du miracle, tout simplement.
Et pour un certain nombre de gens, je pense qu'ils n'ont pas de conscience justement de la science qui est présente dans leur voiture, c'est quasiment du miracle. Et du coup, on peut se poser la question aussi de leur capacité à appréhender ce qui se passe effectivement quand leur voiture se gare toute seule.
Alors, je parlais tout à l'heure des dérives technologiques, sachant qu'il y a des bons côtés, puisqu'évidemment, on en vit aussi parfois positivement, et je peux dire pour certains, d'une façon importante. Ces dérives technologiques, quand on les analyse, est-ce qu'elles sont justement plus facilement réalisables dans la mesure où le peuple n'a pas une conscience précise de leur logique?
Alors, effectivement, on revient sur l'aspect de l'esprit critique. C'est-à-dire que la question, c'est quand la science aboutit à un résultat qui peut se transcrire en application, hélas, l'observation, des pratiques de ces dernières décennies, ou même on pourrait dire presque de ce dernier siècle, montre que quand quelque chose est possible scientifiquement et techniquement, il se met en œuvre dans la technologie. J'ai pas de contre-exemple d'application qui soit réalisable, qui ne soit pas réalisée. Donc ça, c'est une vraie question de société.
Alors, on peut toujours rêver, mais science et conscience, c'est pas le moment d'en parler ?
Alors, je dirais que c'est science et esprit critique. Peut-être que, parce que la question de science et conscience, on revient sur une question un petit peu philosophique qui date des Lumières, alors que la science, elle a énormément évolué depuis. C'est-à-dire que la science, elle a évolué aussi vers justement de plus en plus d'applications, et donc vers une science qui devient de plus en plus une technoscience, où d'ailleurs les laboratoires quelquefois se mobilisent sur un objectif applicatif. C'est-à-dire qu'on sait déjà vers quoi on veut aller, on n'est plus sur la connaissance pure.
Alors, qu'est-ce qu'il reste d'éclairant dans le siècle des Lumières, du siècle des Lumières?
Alors, moi je pense que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le siècle des Lumières est un siècle où on ne peut pas revenir en arrière sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'était quand même un siècle où on avait des scientifiques qui étaient capables d'appréhender presque l'ensemble du savoir de leur époque. Alors déjà à l'époque, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait une communauté scientifique. Les scientifiques du 18e, du début du 19e et du 19e n'ont jamais travaillé tout seul ou à de très rares exceptions près. Donc il y avait une vraie communauté qui échangeait, qui débattait, qui était quelquefois en conflit. Mais c'est maintenu. Ce qui change, c'est qu'à l'heure actuelle, l'évolution, elle va quand même vers une de plus en plus grande spécialisation, ce qui fait que actuellement la culture scientifique, je peux dire des scientifiques, elle est très spécialisée et que on va dire, allez, je vais prendre deux exemples, un informaticien qui s'interroge pas, serait-ce pas à la bioinformatique, parce que là à ce moment-là il est sans doute très ignorant des progrès en biologie. Et de la même façon, un chimiste peut ignorer allègrement ce qui se passe en informatique.
Alors j'ai vu récemment, il y a 15 jours, un article qui explique qu'on serait plutôt dans une voie de décloisonner les spécialités, de remettre les gens un peu en phase, à un certain niveau peut-être, je ne sais pas où ni quand.
Alors c'est vrai que l'aspect pluridisciplinaire des recherches se développe de plus en plus. Moi j'ai pu le voir quand j'étais vice-président chargé des personnels, puisque c'était encore le mandat précédent, où en fin de compte, en 5 ans de mandat, j'ai vu que par exemple exemple, un certain nombre de projets ou de dossiers qui étaient déposés, au départ étaient des dossiers qui étaient très disciplinaires, qui concernait en général l'individu et son laboratoire. Et en 5 ans, on a vu se développer une vraie des dossiers qui concernaient plusieurs équipes, plusieurs laboratoires pour aborder une question scientifique donnée. Hein. Les mathématiques avec la physique avec la biologie, hein. Les mathématiques avec la biologie et l'informatique qui étaient en général impliquées à peu près partout.
Voilà, donc on va revenir, Jean-Philippe Cassard, à cette maison pour la science. Est-ce qu'elle a aussi pour objet, et peut-être surtout pour objet, de permettre justement aux enseignants de les préparer à former des têtes bien faites et plutôt que des têtes bien pleines?
Alors, des têtes bien faites certainement, hein, donc des élèves d'abord qui ont développé, moi je dirais qu'on aura gagné quand les élèves garderont l'esprit de curiosité qui est la caractéristique de l'enfance. Et que à aucun moment dans le cursus scolaire on aura tué ce moteur essentiel de l'envie, de l'appétence pour la connaissance qui est la curiosité. Et je pense que ça fait partie d'une tête bien pleine, c'est que je pense qu'un esprit qui reste jeune, un esprit qui reste jeune et curieux, il continue à se former, il continue à apprendre. Alors, tout au long de sa vie. Et par contre, il faut voir que la démarche, elle est quand même aussi de faire passer un certain nombre de connaissances. On n'est pas anti-connaissance, il n'y a pas que la manière de faire. On aboutit à de la connaissance, mais c'est la manière dont on aboutit à cette connaissance qui fait d'abord qu'elle s'apprend de manière beaucoup plus pérenne. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on a appris pour l'interrogation qui est de la semaine prochaine et qu'on oublie la semaine suivante. Ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a aidé à concevoir. Une des connaissances sur lesquelles on s'est posé des questions ou on a envie de savoir. Et ces connaissances-là, en général, on ne les oublie pas.
Alors souvent, la pédagogie a besoin aussi de l'environnement familial pour que, d'une manière globale, on va dire, des enfants accèdent à la connaissance, au savoir et à ces compétences dont on vient de parler. Est-ce qu'on peut, pour les parents, donner quelques petites indications? Par exemple, est-ce qu'un enfant qui questionne est un génie en puissance, et est-ce qu'il faut entretenir ce questionnement? Et s'il a besoin de réponse, cet enfant, vers quoi le dirige? Vers qui le dirige-t-on?
Alors, un enfant qui questionne, surtout, effectivement, il faut lui dire que c'est bien. On peut lui dire aussi que l'adulte n'a pas la réponse à toutes les questions et qu'on a le droit de chercher avec lui. C'est-à-dire que moi, ce que je conseillerais aux parents, c'est de dire, moi, je ne sais pas la réponse, mais on peut chercher ensemble. Bon, et maintenant, c'est vrai que les outils, les outils Internet sur le web, si on fait quand même un peu attention à l'origine des sources, on peut trouver énormément de réponses à des questions un peu basiques en science. Ça, c'est clair. Mais chercher avec un enfant, c'est lui montrer aussi que l'adulte, il est aussi tout le temps en recherche de réponses, il n'a pas toutes les réponses.
Chercher avec son enfant sur Internet, c'est aussi une belle occasion de partage, Jean-Philippe Cassard.
Exactement.
Une petite conclusion. Merci d'être venu.
Merci.